Utsita.
Utsita.
Attitude.
Attitude.
Utsitanitude.
Une émission préposée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.
Nat Sakura, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc photographe, directrice artistique. Voilà, je crois que ça résume.
Ouais.
Dit-elle d'un ton pas tout à fait convaincu. Ouais. Bon, mais c'est photographe, directrice artistique. Mais on va aller plus loin avec Nat Sakura. Donc, c'est 1973, le début
oui,
de l'histoire.
Oui, tout a commencé là.
Voilà. Alors, dites-nous tout.
Eh ben, ça a commencé à Gérone, en Espagne, en 73, en novembre 73. Ben, c'est là que je suis né. Je suis né de parents inconnus. J'étais abandonné dans un orphelinat, donc à Gérone. C'était un orphelinat catholique, intégriste, dirigé par un membre éminent de l'Opus Dei, qui était archiprêtre de Badalone et qui s'appelait Javier Cox. Et qui est devenu mon parrain. J'étais ensuite adopté. J'avais 6 ans et demi.
Non, mais là, vous allez trop vite.
Ah ouais, je suis trop vite.
Vous allez trop vite, parce que quand on est biberonné par l'Opus Dei, il en reste quelque chose.
Ah ouais, ça laisse des traces.
Alors
ça laisse des traces. Mais ça laisse surtout une sévère colère contre tous les ayatollahs, toutes les certitudes, toutes les chapelles, toutes les églises fermées, et une volonté de liberté.
Mais il n'était pas complètement blanc ni noir.
Ben, comme personne. Personne n'est noir ni blanc. Tout le monde est gris.
Il a été votre parrain.
Lui, il était gris foncé. Non, c'était un homme cultivé, intelligent, surprenant. Mais c'était un des soutiens les plus féroces du franquisme. Donc nécessairement, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, parce que c'était mon parrain, c'est lui qui m'a en partie éduqué quand j'étais petite. Mais voilà, après, ça m'a fait découvrir en profondeur la religion catholique. Et donc, maîtriser et comprendre tous les concepts qui la fondent. En revanche, ça me fait détester toutes les certitudes et surtout toutes les dictatures.
Et les dogmes. Et les dogmes.
Eh oui, et tous les dogmes. Exactement. Toutes les choses conçues comme des choses inaltérables, permanentes, immuables.
Alors c'est marrant parce que vous faites une sorte de dévoilement, je ne sais pas si le mot est correct, de l'Opus Dei, alors que c'est très secret l'Opus Dei.
Ben oui, mais alors c'est marrant d'ailleurs que vous parliez de dévoilement, parce que vous savez qu'en grec, le dévoilement, ça se dit « aletheia ». Et j'ai failli faire une partie de ma thèse de doctorat sur le A privatif de aletheia. Parce que chez les Grecs, le dévoilement, ça n'est pas quelque chose de privatif. Dévoiler, en français, ça veut dire qu'on enlève le voile. Le A de aletheia en grec, c'est quelque chose qui rajoute. C'est-à-dire qu'en fait, par le fait qu'on va rajouter quelque chose de... je sais pas, de mystique, on va faire apparaître quelque chose. Donc le fait de parler de l'Opus Dei, c'est un hasard, hein, c'est quelque chose qui a jonché ma vie au début. Ça m'a appris qu'on pouvait croire en quelque chose de fort et que ça soit une erreur. Voilà.
C'est bien ce que vous dites, hein.
Oui, bien sûr. Je ne dis que des choses bien.
Dit-elle. Bien, écoutez, après il y a un papa qui arrive avec une maman, ou une
exactement,
maman et un papa.
Exactement, bah ouais, les deux. Donc ce sont des gens de la région. Mon père était lausérien. Ma mère était d'un peu plus haut, limousine, mais bon, ça reste dans l'Occitanie. Voilà, et donc tous les deux m'ont adopté, parce qu'en fait, ma mère ne pouvait pas avoir de deuxième enfant, elle avait eu un problème de femme. Et donc voilà, donc ils m'ont adopté. Et donc je suis arrivé dans cette famille, donc moi je parlais pas du tout le français. Et il y a eu une période amusante, maintenant que j'y repense, où j'ai complètement rejeté mes origines. Et je me suis forcé à être une vraie, vraie petite française. Et donc j'ai rejeté tout ce que j'étais avant. Et donc j'ai perdu l'usage de la langue catalane, qui était pourtant ma langue naturelle, maternelle.
Votre langue mère, donc, c'est le catalan.
Eh oui.
Et le castellan?
Non. Ah non. Ah non, on ne parlait pas castillan, Orfelina, on parlait catalan.
Catalan.
Oui.
Bon, ben, pourquoi pas?
Ben, c'était comme ça. Et c'était bien.
Vous savez que c'est une langue sœur de l'occitan.
Oui, oui, en effet.
Donc, bienvenue à Occitanitude.
Merci.
C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles se grattent le dos, puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Et pour un rien, elles se parlent, elles font marcher le bec. Au bout d'un moment, elles râlent, le gosier sec. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Et les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Allez, travaille, cigale, feignante, allez. La chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles n'ont aucune hâte, à part celle de chanter. Mais force est de constater qu'elles se déshydratent.
La chanson des cigales, la ratatouille. Alors pourquoi ce premier choix?
Alors en fait, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil parce que j'étais invité sur Radio Nova il y a 2 ans, qui faisait un décrochage dans la région, comme ils font tous les étés. Et ils m'ont demandé de passer un essai. Et c'est pas du tout le son qu'on entend d'habitude sur Nova. Et ça m'a fait tellement rire de passer la chanson des cigales que voilà. Donc j'avais envie de ça, et puis en plus il fait froid en ce moment, donc ça rappelle l'été, ça rappelle ces moments agréables hein, quand le soleil se couche.
Mais la ratatouille est bienvenue sur Radio Languedoc.
Mais justement, c'est la raison de plus, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait revenir là où elle devait être.
Il n'y a pas de souci pour nous, hein, pour nos amis de la ratatouille qui sont vraiment incontournables chez nous, incontournables. Alors, Sakura. Il fallait que je me trompe, évidemment, je fais une erreur par émission, pas plus, rien qu'une, hein, rassurez-vous. Sakura, donc, ben, vous êtes de nouveau donc, dans le circuit avec vos parents adoptifs, et vous vous retrouvez à Narbonne, Béziers, on y est là,
on est au cœur. On y est dedans.
On est au cœur.
On est dans le vent de Narbonne.
Alors
ben, je fais mes études à Narbonne, j'habite à Saint-Pierre-la-Mer. Un tout petit village, alors c'est très intéressant parce que c'est un village où il y a 45 000 habitants l'été et 100 l'hiver. Et on dirait la Bretagne quand il fait froid. Il n'y a personne, il y a beaucoup de vent. Et donc je fais mes études, je passe mon bac. On parle de moi d'un midi libre à ce moment-là parce que j'ai la meilleure note du département.
Déjà célèbre.
Oui, la meilleure note du département. J'avais eu 19,5 au bac. Et voilà, et puis donc Narbonne ça s'arrête puisque je pars à Montpellier pour faire mes études. Et je fais donc Cagne, Hippocagne, et je fais ensuite des études de philosophie.
Alors vous le liquidez vite à Narbonne, hein? On n'a fait même pas une minute à Narbonne.
Non, mais ça ne mérite pas plus. Enfin, sinon c'est une très jolie ville. Mais j'ai pas aimé cette ville parce qu'en fait je me sentais enfermé. Enfermé probablement à cause de mes parents qui étaient adorables mais qui étaient âgés. Et donc, il y avait peur de tout pour moi. Et donc, ça fait que je ne sortais pas, je sortais peu. Donc, j'ai eu une vie narbonnaise très limitée.
Et c'est cette vie limitée qui vous amène à devenir quelqu'un de hyper motivé pour tout ce qui est, j'allais dire politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que vous êtes une contestataire.
Oui, une gauchiste. C'est possible. En fait, je pense que cette période de ma vie où j'étais à Narbonne quasiment seul, j'avais pas d'amis, ça a fait de moi celle que je suis, en ce sens que ça m'a obligé à méditer, à réfléchir, à penser, et à me promener sur la plage de Saint-Pierre l'hiver, dans le vent, avec mon chien, et donc à me construire en tant qu'individu. Et donc, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai pas été militant tout de suite. Hein. Je suis devenu grâce à des rencontres, des mauvaises rencontres, diront les gens de droite. Et j'ai compris qu'en fait, c'est pas tellement la politique qui m'a mené à m'engager. C'était l'injustice. Je supporte pas l'injustice, toutes les injustices. Et c'est cette colère contre les injustices qui m'a fait m'engager, puis commencer à lire, à comprendre et à essayer de comprendre un peu la politique. Quand j'ai commencé ma vie de jeune adulte, je vous avoue que la politique, j'y connaissais rien, et puis ça m'intéressait pas. Pour moi, c'était un truc de bof, la politique. Et puis après, en lisant, j'ai compris que non seulement c'était pas un truc de bof, mais c'est que c'était essentiel pour notre vie à tous ensemble, et que si on n'arrive pas à tous, à donner du sens à ce qui nous entoure, on n'est rien et puis on est dominé par quelques-uns.
Alors si j'avais été un animateur de radio, disons, au-delà de tout soupçon, j'aurais, en vous présentant, appelé Nat Sakura. Vous êtes donc docteur en philosophie.
Et oui.
C'est pas rien. Diplômé en lettres modernes.
Oui, j'ai une maîtrise.
Ancienne de Midi Libre,
et oui.
On en parlera. Ouais. Et vous êtes aujourd'hui donc une photographe incontournable dans, je dirais, la photographie internationale. C'est peut-être un peu trop, non ?
Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que si vous demandez à des personnes dans la rue de vous citer des noms de photographes célèbres, il est très probable que la plupart n'auront pas de nom à donner. Peut-être Cartier-Bresson ou Doisneau. Mais des photographes actuels, il n'y a pas de star system de la photographie. Donc les gens ne savent pas qui... On voit des images partout, dans les magazines, à la télé, sur les affiches, dans les abribus. On voit des images, mais on ne sait pas qui les fait. Et donc, j'en fais un grand nombre. Et dans mon domaine, c'est-à-dire la photographie de mode et de publicité, je suis assez reconnu, voilà. Mais je suis assez reconnu par un groupe extrêmement petit de personnes dans le monde. Donc je suis internationalement connu par, 500 personnes.
Vous êtes en train de me dire que la photographie n'a pas pignon sur rue.
Non, vous regardez, je sais pas moi, tout le monde a vu les photos avec Charlize Theron dans les publicités toutes les publicités qu'elle fait en ce moment, personne ne sait qui fait les photos. C'est pas moi, mais qui fait les photos. Donc, il n'y a pas de star system, donc on ne peut pas dire qu'il y a une notoriété. Il y a une notoriété parmi les professionnels. Oui.
Donc, voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça,
monsieur. On peut le regretter.
Non, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien d'être anonyme.
Vous disiez dans un interview, il n'y a pas si longtemps, par rapport à votre thèse de doctorat, on va en reparler, mais que vous étiez donc syndicaliste avant toute chose,
oui.
C'était votre base, votre terreau, hein, et que vous n'étiez pas n'importe laquelle des syndicalistes, puisque vous étiez plus rouge que rouge.
Ah ouais, non, j'étais, je suis toujours d'ailleurs, c'est rien n'a changé. Rien n'a changé, parce qu'en fait, j'en suis arrivé à la conclusion, en lisant, en réfléchissant, que de toute façon, pour assurer un bonheur humain entre les hommes, et puis surtout une continuité de notre espèce dans la nature, il fallait que le système change, et qu'il ne pouvait changer que s'il était basé sur le partage des richesses, de l'énergie, des savoirs, etc. et pour aboutir à ce partage que, évidemment, ceux qui possèdent ne désirent pas et refusent de toute leur force, bah, il faut en passer par, bah, par une révolution. Et c'est simple, si les choses ne changent pas, et aujourd'hui on est dans une situation où c'est, nous devons changer rapidement, parce que bah, les études du GIEC, toutes les études sur le changement climatique nous montrent que bah, l'espèce humaine a une ou deux générations devant nous, risque de s'éteindre, ou en tout cas d'être transformée tellement fondamentalement qu'on ne pourra plus la reconnaître comme une société. Et aujourd'hui, le seul moyen de changer tout ça, bah, c'est d'arrêter la destruction massive de la planète liée au système capitaliste. Donc je suis, de ce point de vue-là, rouge, mais enfin, je suis communiste au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que je veux simplement que ben, les choses soient partagées et qu'on arrête de dévaster la planète.
C'est votre forme d'études universitaires poussée, notamment sur Karl Marx, qui vous a amené à ça, ou vous aviez des propensions ?
Non, pas du tout. Moi, je viens d'une famille, bon, mes parents étaient gentiment socialistes. Et se satisfaisait d'un système où, de temps en temps, il y avait quelques petits acquis sociaux qui étaient gagnés par les prolétaires. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est se satisfaire d'une situation qui n'est pas satisfaisante et qui aboutit au fait que dans la rue, des gens dorment dans la rue, ne mangent pas leur faim, que des tas de pays du Sud sont contraints à la misère ou à l'exil, je sais pas, on a tous un smartphone, et quand j'ai fait un reportage au Nigeria il y a 10 ans, et au Nigeria il y a des mines où on récupère un certain nombre d'éléments, donc ce qu'on appelle les terres rares, qui servent à fabriquer nos smartphones, et les enfants qui travaillent là-dedans, parce qu'il faut aller rentrer dans des mines qui sont pas étayées, donc ça risque de s'effondrer, donc on met des personnes petites, donc généralement des enfants, et puis en plus ils protestent moins que les adultes, et ces gens-là sont des esclaves, quoi. Et donc tout ce qui fait notre confort d'Européens, d'Occidentaux, ben, c'est basé sur le sang d'autres humains. Et lorsqu'on prend conscience de ça, ben, on comprend que ça, soit on l'accepte, et si on l'accepte, il faut savoir clairement ce que ça veut dire, et si on le refuse, ben, il faut se battre pour que ça change.
Vous êtes dans la revendication permanente, on l'aura compris, à vous écouter, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas? Mais est-ce que, par exemple, ça explique votre malaise par rapport au président d'université, puisque vous avez même séquestré, si je ne m'abuse, et si je lis bien mes fiches, que vous avez séquestré Madame Veil, la présidente de l'université?
Exactement. Avec tout son staff, donc la directrice de la vie étudiante, etc. Oui, à l'époque, en fait, on avait fait une campagne, parce qu'il existe une loi qui permet aux étudiants de demander le remboursement de leurs frais d'inscription. Et la loi permet qu'il y ait, je crois, de mémoire, 5% des étudiants qui soient remboursés des frais. Donc évidemment, les 5% les plus pauvres. Et donc on avait fait une grande campagne à la rentrée pour proposer aux étudiants de monter un dossier pour se faire rembourser ses frais. Et on attendait que la direction de l'université réunisse une petite commission pour étudier ces dossiers de manière à rembourser un certain nombre d'entre eux. Quand la réunion a eu lieu, bah, ils ont refusé d'étudier ces dossiers, ils ont décidé d'en indemniser 5 ou 6, alors que normalement ça aurait dû être de l'ordre de 300 étudiants remboursés. Et évidemment, nous on a demandé l'application de la loi, strictement, et donc on a dit on vous garde dans cette salle jusqu'au moment où vous aurez lu tous les dossiers qu'on vous a amenés, que vous aurez choisi les 300 étudiants qui doivent être remboursés. Évidemment, ils ont refusé, donc ils sont restés enfermés pendant 2 jours dans la pièce. Oh bon, évidemment, on leur a permis d'aller aux toilettes, on leur a amené des sandwichs, on a été très gentils, mais ils n'ont pas pu sortir jusqu'au moment où ils ont choisi le nombre d'étudiants que demandait la loi. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça, mais il y a eu plein de choses comme ça. On a séquestré la directrice du CROUS pendant un bon moment. C'était parce qu'il y avait des tas d'étudiants qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas de solution de logement, alors que le CROUS est chargé d'héberger les étudiants. C'est son job. On paye des impôts pour ça.
Alors, ces affaires remontent à une dizaine, une quinzaine d'années.
Ah, plus que ça, 20 ans même.
20 ans même. Mais on a l'impression qu'on parle d'aujourd'hui.
Ah oui, ben ça, c'est rien n'a changé. Enfin, c'est même devenu pire, hein, parce que quand je vois ce qui se passe dans les universités, la misère étudiante est infiniment plus grande. À l'époque, il y avait des étudiantes qui se prostituaient dans les cités universitaires pour payer leurs études. Et c'était, je sais pas moi, 2-3% des étudiantes. J'en ai discuté avec un syndicaliste étudiant il y a un an à peu près. Il m'a dit que maintenant, on était de l'ordre de 10% dans les cités universitaires. Voilà. C'est-à-dire que les gens sont tellement dans la misère que bah, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et c'est pas normal. Quand on étudie, on a besoin de temps pour étudier, pour lire, pour comprendre, pour échanger, pour apprendre et pour devenir un bah, futur professionnel solide. C'est à ça que servent les études. Et voilà. Et sauf que la plupart des étudiants pauvres maintenant bah, travaillent. Et donc quand on travaille, on ne réussit pas ses études. Et donc on reste pauvre.
Vous avez une sorte de ligne politique là, qui est définie par rapport à ces quelques exemples que vous avez cités. C'est impressionnant de voir que vous êtes sans concession.
Ah oui, je suis sans concession, oui. Il y a, en 98, j'ai couvert la grève des dockers de Liverpool, qui étaient en grève parce qu'on remettait en cause leur... La façon qu'avaient les responsables des ports de les payer. Et ils avaient un slogan qui était affiché partout. C'était « No compromise », pas de compromis. Et donc, je n'en fais pas.
Vous êtes sur cette ligne-là ?
Ben oui, parce que le problème, c'est que dès l'instant où on fait un compromis, on rentre immédiatement dans une compromission. On ne peut pas faire de compromis sur la vie humaine. On ne peut pas faire de compromis sur la lutte contre la pauvreté. On peut faire des compromis sur des tas de choses, mais pas là-dessus. Le problème, c'est que dès l'instant où on commence à avoir un discours politique, très rapidement, on commence à faire des concessions sur l'essentiel. Et c'est toujours pareil, c'est toujours les plus pauvres, les plus miséreux qui payent.
Alors, si on lit l'histoire de votre vie, on s'aperçoit que vous avez travaillé à Midi Libre. Est-ce qu'on n'avait pas fait des compromis ?
Ah oui. Alors... Non seulement j'ai travaillé à Midi Libre, mais j'ai travaillé pour la vraie presse bourgeoise. J'ai travaillé pour Libération, j'ai travaillé pour la Maison de Radio France, j'ai travaillé pour Le Monde, j'ai travaillé pour Le Temps, la Tribune de Genève, l'Hebdo. J'ai travaillé pour des tas de journaux et magazines qui étaient dans le système capitaliste. En revanche, et c'est ce qui m'a permis de durer dans ce métier-là, c'était de me dire, je suis à l'intérieur, mais je vais me battre pour faire passer les informations qui me semblent être celles qui vont amener les gens à mieux comprendre le monde, mieux comprendre l'actualité. Le travail d'un journaliste, c'est de donner du sens au réel, de donner du sens à l'actualité. Et en fait, bah, je peux vous le dire, hein, je crois que si des confrères de Midi Libre m'entendent, pendant presque 8 ans à Midi Libre, tous les matins, dans toutes les conférences de rédaction, on entendait une voix qui criait au fond, c'était la mienne, pour faire passer les informations qui me semblaient être méritées la une, ou méritées d'être vraiment traitées. Et c'était toujours des sujets qui avaient lieu, enfin qui pouvaient donner du sens à l'actualité, et permettre aux gens de penser et de réfléchir, et de se placer en tant que citoyen, conséquent. On vous demande tous les 5 ans d'aller voter pour un président de la République. Et vous ne pouvez aller voter que si vous comprenez les enjeux. Quels sont les enjeux qui font que un tel va vous proposer tel programme et un autre va vous proposer un autre programme. Tout ça, c'est lié au fait que vous comprenez le monde dans lequel vous vous trouvez. Et le travail du journaliste, c'est de vous donner des clés. C'est pas de vous dire vous devez penser ceci ou vous devez penser cela, chose que font beaucoup de mes confrères. Mais c'est de donner des outils pour comprendre le monde. Et donc, je me suis battu dans tous les journaux dans lesquels j'ai été pour donner du sens.
Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas arrivé à vos fins que vous avez quitté ce métier-là ?
Peut-être, mais je ne pensais pas que j'arriverais à mes fins. j'en suis parti parce que j'ai fait le constat en 2011-2012 que le photojournalisme était mort. Alors c'est terrible de dire ça, mais je ne sais pas si vous avez vu la couverture de la guerre en Syrie, par exemple, ou si vous avez vu la couverture des guerres à la frontière irakienne, dans le désert du Wadi Rum avec la Jordanie. On n'a pas d'infos, on n'a pas de photos. On a des on-dit, on a quelques images qui viennent de smartphones qui sont invérifiables. Et la plupart des conflits, par exemple, on peut parler du conflit des Gilets jaunes actuellement, regardez les photos qui sortent dans la presse traditionnelle, on a toujours le même type de photos qui sont prises du point de vue des CRS, où on montre une foule haineuse, comme dit notre président. Et aucune photo prise de l'autre côté, où on montre la réalité des violences de la police. Et ça, c'est pas un travail de journaliste. Un travail de journaliste, il est pas là pour dire c'est un tel qui a raison. Il est là pour montrer les choses, toutes les choses. Les mauvais, les bons côtés.
Alors, est-ce que c'est votre formation, vos études, le fait d'avoir fait un lourd et important travail sur Marx qui vous a amené à ce type de conclusion provisoire?
Oui, mais non. Parce qu'en fait, en réalité, mon travail en philosophie sur Marx ne s'intéressait pas particulièrement à sa philosophie politique. C'était plus un travail sur la sémiologie philosophique de Marx, c'est-à-dire le fait que, bon, peu de gens le savent, Karl Marx écrivait ses manuscrits, évidemment pas à la machine, à la main. Et il écrivait des phrases dans lesquelles il y avait des mots en anglais, des mots en allemand, des mots en russe, des mots en grec, ancien, des mots français, évidemment. Et chacun de ces mots, employés d'une certaine manière, ne veut pas dire la même chose en français, en anglais ou en allemand. Lorsque vous écrivez « petit bourgeois », P-E-T-Y, bourgeois comme en français, qui est le sens anglais du terme, ça n'est pas le mot « petit bourgeois français ». Petit bourgeois français, ça détermine une classe sociale qui est située entre le prolétariat et la bourgeoisie, qui sert de courroie d'entraînement au capitalisme. En anglais, les petits bourgeois, ce sont ceux qui vont être la cheville ouvrière de la mise en place des lois capitalistes sur le prolétariat. C'est donc un terme beaucoup plus fort. Ça n'est pas le même sens. Et donc, lorsque vous lisez ces mots les uns après les autres et que vous les mettez en perspective, vous vous rendez compte qu'il y a une philosophie sous-jacente à la philosophie de Marx que l'on connaît en lisant un texte traduit dans une seule langue. Et c'est le travail que j'ai mené. Voilà. Donc c'est pas cette lecture-là qui m'a aidé à avancer. En réalité, ce qui m'a aidé à avancer, c'est à comprendre le monde, c'est évidemment ce qu'ont pu écrire des auteurs politiques de droite comme de gauche, et puis de lire l'actualité, et puis de la mettre en vis-à-vis avec comment les choses se mettent en place, quelles sont les politiques qui sont proposées par ceux qui nous dirigent et par quels sont les résultats. Et à partir de là, on peut faire des propositions.
Quand vous êtes allé donc dans ces territoires, notamment les territoires occupés,
oui, il y a que ça.
Ça vous a formé à...
Oui.
C'est le cas de dire.
Ah oui, là, c'est...
C'est une formation sur le terrain, quoi.
Exactement. Donc là, c'est... Donc ça, c'est la période entre 2000 et 2005, puisque là, j'étais grand reporter pour l'Hebdo, donc un hebdomadaire suisse. Au Moyen-Orient, donc essentiellement à Gaza, là on se rend compte de la réalité. On voit que ce dont on parle, ou plus exactement ce dont on ne parle jamais dans les télévisions européennes et dans les journaux européens, sur la situation réelle qui existe en Palestine, ça vous forme. Et ça vous forme réellement l'injustice et la dictature.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très prégnant dans votre démarche, et j'ai l'impression que vous avez sauté vous avez passé un cap, et c'est peut-être bien ainsi, quoi, parce que bon, on va y revenir après, vous êtes vraiment sur la base d'un travail militant sur la photo et puis basta, quoi.
Oui, mais de toute façon, quand on croit en quelque chose, on change jamais. Et après, peu importe la manière qu'on va avoir de faire passer des idées ou des émotions, les choses évoluent. Mais en fait, le passage, il est simple. C'est que pendant 18 ans, j'ai été donc photoreporteur, grand reporter. Et le principe du journalisme, c'est d'être un témoin. D'être un témoin des choses, le plus objectif possible, si tant est que l'objectivité puisse exister chez un être humain. Et donc, on ne maîtrise rien. Vous arrivez sur un endroit, les choses sont comme elles sont, la lumière elle est comme elle est, les personnes qui sont là elles sont comme elles sont. Vous ne pouvez pas intervenir sur les gens, vous pouvez pas dire à un chef d'État, lève le bras, baisse le droit bas, mette ta tête à droite, ça existe pas. Donc, le seul outil que vous puissiez avoir, c'est le cadrage. Trouver l'endroit. et trouver l'image qui va donner du sens. C'est le seul outil. Et dans ce que je fais maintenant, c'est l'inverse. Je maîtrise tout. Je maîtrise le lieu, les personnes qui sont présentes, comment elles sont coiffées, habillées, maquillées. Je maîtrise la lumière, je maîtrise le temps. Et donc c'est le travail exactement inverse. C'est-à-dire celui où on va devenir chef d'orchestre de la photographie. D'ailleurs, il y a une revue là, qui est sortie ce mois-ci qui titre Nat Sakura, la chef d'orchestre.
Et... Donc, allons avec la chef d'orchestre écouter un peu de musique.
Una mattina, sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono alzato. Ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se muoio, la partigiana. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Écoutez Bella Ciao.
Oui, c'est un vieil enregistrement des années 90, mais c'était bien, c'était les Zebda.
Zebda, oui. Et donc, ben, ça reflète un peu ce que nous disions.
Tout à fait.
C'est complètement dans la ligne. Alors, vous avez donc quitté le travail de photojournalisme, de journalisme, pour être vous-même dans le cadre de votre... aventure photographique à La Vérune.
Exactement, petit village sympathique.
Alors, La Vérune, pourquoi La Vérune ?
Ah ben alors, La Vérune d'abord, parce que mon arrière-grand-père, il possédait une vigne. Et puis surtout pour des raisons pratiques, hein, c'est que c'est à l'ouest montpelliérain, donc c'est la partie la moins chère de l'agglomération, c'est à la frontière, entre la 75 et la 9, donc c'est-à-dire entre Paris, Barcelone et Turin, donc c'est un endroit parfaitement bien adapté. Et puis c'est surtout un endroit où j'ai trouvé une espèce de vieux mas viticole qui est suffisamment grand pour accueillir mon studio.
Et là, vous faites donc des stages, des réalisations, des photos ?
Oui, on fait plusieurs choses. Donc ma société, c'est donc d'abord un grand plateau de photographie. C'est même le plus grand plateau de photographie du Grand Sud de la France. Puisqu'en fait nous n'avons pas de concurrents sinon à Paris ou dans la région niçoise en surface et en matériel. C'est aussi donc une école de formation donc qui est certifiée etc. donc qui permet de faire de la formation continue pour des personnes qui sont en reconversion ou des photographes professionnels qui veulent s'améliorer. C'est une maison d'édition, voilà, les éditions Victoria, qui édite donc de la photographie. Et qu'est-ce que je veux dire, quoi d'autre et puis c'est un endroit où la photographie telle que moi je la souhaite, c'est-à-dire la photographie de haut niveau, qui permet de pas rougir lorsque on se retrouve confronté à des concurrents, je sais pas moi, américains, australiens, suisses, d'avoir des photos qui permettent d'accompagner des grandes marques internationales, puisqu'on travaille pour, notamment pour Balenciaga, on a travaillé pour Dior il y a 2 ans, On travaille pour des grandes marques automobiles, on travaille pour beaucoup de monde. Et ça permet de faire venir dans la région des marques qui n'y venaient plus. Puisque il y avait une tradition jusqu'aux années 60 où il y avait à côté de Bayard un grand studio qui accompagnait, enfin qui photographiait toutes les grandes marques, essentiellement de haute couture européenne. Et ça s'est arrêté, je crois, en 62, me semble-t-il, pour des raisons financières. Et depuis, il n'y a plus de photographies réalisées dans la région pour ces marques. Et le but, c'était de faire revenir ça. Et de créer une dynamique entre les métiers de la mode, les métiers de la publicité et les métiers de l'image dans la région.
Pour ce faire, vous avez donc créé la maison d'édition. La maison d'édition qui, évidemment, a pignon sur rue et maintenant de plus en plus, avec un manuel de photos et d'éclairage qui parle un peu de la photo dans tous ses états, comme vous le dites dans le sous-titre ou dans le titre de l'ouvrage. Important, ça.
Oui, c'est important parce que la photographie est un art populaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je pratique un art populaire. Et c'est un art que tout le monde a l'impression de savoir faire. Tout le monde, je sais pas, d'ailleurs, vous, quand je me retrouve dans un dîner avec des gens que je connais pas et qu'on me demande la profession que j'exerce, et que je réponds photographe, tout le monde me répond, moi aussi. Moi aussi, je suis photographe. Moi aussi, j'ai un appareil photo, etc. Sauf que la photographie, c'est l'art le plus difficile du monde parce que c'est, il paraît que c'est le plus facile. C'est un art qui va demander beaucoup de précision, un œil, des qualités optiques, une façon de voir les dynamiques d'image et surtout de savoir saisir quelque chose. Et donc, ça nécessite un apprentissage, un long apprentissage. Et j'aime bien partager et j'aime bien enseigner la photographie. Et je me suis retrouvé donc, pendant des années avec des élèves qui venaient me voir, qui me disaient « Natalia, donne-moi des noms de livres pour approfondir ce que tu viens de me dire. » Et donc, il y a 3 ans, je suis allé à la FNAC et j'ai pris tout le rayon de photographie, de manuels de photographie qu'ils avaient. Et ensuite, je suis allé sur Amazon et j'ai acheté tout ce qui manquait. J'ai acheté 200 livres et j'ai lu les 200 livres. Et sur les 200 livres, j'ai trouvé qu'il y en avait 3 qui tenaient à peu près la route. Et sur ces trois qui tenaient à peu près la route, il y en avait chacun qui tenait la route sur un domaine. Mais pas un livre qui vraiment pourrait servir tous les photographes à apprendre, à maîtriser la photographie évidemment, mais surtout l'éclairage, puisque la photographie, ça n'est que de la lumière. Et donc j'ai écrit ce livre. Et au début, je m'attendais en livre à en vendre quelques centaines d'exemplaires. Et on en est, au bout de 6 mois, à 17 000 exemplaires, à tel point que des tas de maisons d'édition m'écrivent pour me proposer de racheter les droits. Et qu'on est en train d'envisager de faire une version anglaise, puisque des lecteurs anglais commencent à nous demander, anglais et américains commencent à nous demander le livre. Et ça devient un succès tel que je pense qu'on va rééditer, enfin, on va faire un nouveau livre, un deuxième livre, qui accompagnera le premier cette année probablement.
Donc c'est une façon de marquer votre présence sur la Vérune, mais bon, c'est une façon d'être par rapport à une histoire que vous avez racontée. Mais bon, peu importe, vous auriez pu le faire à Saint-Jean-de-Védas ou
non,
à Bayard.
J'aurais pu le faire qu'à la Vérune.
Oui.
Oui, parce que la Vérune, c'est, pour des raisons diverses et variées, c'est un lieu qui a quand même une importance pour moi. Parce que c'est l'endroit où j'ai habité quand j'étais étudiante. Et je pense que c'est les plus belles années de ma vie. Et le fait de revenir à la Vérune après des années passées à Paris, à Gaza, en Casamance et dans d'autres endroits du monde, en Birmanie, le fait de revenir à la Vérune, ça avait un sens vraiment fort pour moi. Et puis c'est aussi l'endroit où j'élève ma fille. Et voilà, ma fille a ses amis ici, donc...
Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de revenir à ses racines ?
Oui. En fait, c'est pas mes racines au sens normal du terme, c'est les racines que j'ai choisies.
Aux racines ?
Voilà. C'est l'endroit où je me suis senti bien et j'ai pu m'enraciner dans le monde. Parce que pendant très longtemps, je me suis senti apatride. Enfin, je suis ni française ni espagnole, j'ai les deux passeports, les deux nationalités, je sais pas à qui j'appartiens. Et donc c'est le moment où, quand je me suis senti bien dans ce village, ce petit village, et qui est quand même le centre du monde... Hein. Malgré ce que dit Dali. Oui, parce qu'il y a Jacques Vabre au nord et ça permet d'avoir une odeur de café très agréable le matin. Qu'est-ce que je disais?
L'odeur de café.
Oui, oui, l'odeur de café. L'odeur de café aide à créer. Non, et puis c'est un endroit qui est très agréable. En plus, parce que on est tout près de Montpellier, mais c'est un peu la nature, c'est un peu la campagne, une petite forêt et tout ça. Donc, il fallait que je sois là.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Il va bien, là, il est bien placé.
Ah, il est parfait par rapport à ce que je disais sur l'Aveyron.
Ouais. C'est vrai.
Oui, enfin, je crois qu'il y a une seule personne au monde qui va comprendre ce que le raison, là, le pourquoi du comment. C'est une personne que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai habité à l'Aveyron, qui adorait cette chanson.
Voilà. Voilà. C'est un petit clin d'œil.
Ouais.
Il faut avoir des clins d'œil.
Oui, c'est bien.
Des clins d'œil amoureux.
Exactement.
Alors, il y a quelque chose qui me titille dans mon langage, c'est que vous avez beaucoup photographié, vous photographiez beaucoup les femmes.
Oui.
Alors, pourquoi?
Parce que c'est le seul vrai sujet intéressant sur la planète.
Ah, ça c'est clair.
Ouais.
T'as le mérite d'être clair.
Ouais.
Alors
ouais, j'aime que les femmes. Non, pourquoi? Pour plein de raisons. Bon, d'abord, effectivement, c'est quelque chose que j'adore photographier. Parce que... ce qui est très intéressant, c'est de jouer par rapport à l'image. Et la femme, sa représentation traditionnelle, c'est très intéressant justement de la remettre en cause, la remettre en question par rapport au canon traditionnel de la publicité. Et donc travailler sur la représentation de la femme en faisant une femme, non plus une femme objet, mais en faisant une femme sûre d'elle-même, puissante, forte, qui sait où elle va, c'est un travail militant sous-jacent au travail publicitaire, au travail de photos de mode que je fais. Et c'est ce qui fait que pas mal de marques viennent me voir. C'est justement qu'elles ont besoin de sortir de la représentation de la femme objet qui a été celle de la photo de mode depuis toujours. Et c'est un nouveau mouvement. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu toutes les collections actuellement, on n'y représente plus la femme comme un objet. On la représente comme un... comme une puissance, comme un leader. Et voilà. Et donc c'est en ce sens-là que ce travail-là m'intéresse.
Autrement dit, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a de nouveaux symboles qui se mettent en place. Hein.
Oui, exactement. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a des archétypes qui sont liés à une société, à une idéologie, à une époque. Mais Mais le travail des créateurs, le travail des photographes, des peintres, des artistes, c'est justement de proposer de nouveaux archétypes et de nouvelles façons de montrer les choses. Donc c'est, comment dire, c'est une façon militante d'essayer de transformer le regard que porte la société sur les femmes. Voilà.
Est-ce que, par rapport aux femmes, on peut dire, je vais dire un truc peut-être un peu banal ou idiot, est-ce que vous faites de la photo progressiste par rapport aux femmes ?
Ah, même, je fais même de la photo violemment révolutionnaire.
Carrément.
Ah ouais.
Carrément. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère.
Non, mais après, révolutionnaire, les gens vont dire que je me surestime. C'est en ce sens que le but, c'est de montrer quelque chose, une façon de montrer la femme qui n'est pas montrée jusqu'à présent. Voilà. Et surtout de faire des photos impossibles. Le principe de ma photographie, c'est qu'il ne doit à aucun moment y avoir une intervention de logiciel informatique. Pour parler clairement, pas de Photoshop. Et le but, c'est, malgré le fait qu'on va se priver de cet outil-là, de faire apparaître des choses qui n'existent pas. Par exemple, ben, vous avez sous les yeux une jeune femme qui est sur la Lune, qui est donc assise sur un astéroïde avec la Terre en arrière-plan. Ben, je vous promets que cette photo a été faite sans Photoshop. Et je peux même vous expliquer comment.
Expliquez-moi.
Alors, la photo que vous voyez, c'est donc une jeune femme habillée avec une robe bleue, qui porte une coiffure un peu bizarre, ronde, hein, avec des couleurs, et qui est donc sur la Lune. Et on voit la Terre en arrière-plan. Et en fait, c'est simple. La Lune, c'est un tas de sel. Et plus exactement, c'est un tas de sel que conservait la DDE de Frontignan dans un hangar. Ce hangar était un hangar rouillé, avec plein de petits trous de rouille. La photo a été prise à midi, en plein été, donc les petits trous de rouille font ressortir des petites taches en arrière-plan de la photo, et on dirait des étoiles. La Lune, ben, un flash vient éclairer le modèle et la Lune, et on dirait que la Lune, ben, c'est la Lune. Et en arrière-plan, il y a une photo de la Terre qu'on avait imprimée, qu'on a posée sur un morceau de bois, et qu'on a éclairée aussi. Et ça donne une photo d'une modèle sur la Lune. Voilà, sans Photoshop. Et j'aime bien parce que c'est poétique en plus.
Photoshop est complètement dépassé par rapport à notes.
Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est trop facile. Un, c'est trop facile. Et puis deux, surtout, il n'y a pas de magie dans Photoshop, puisqu'on peut tout faire. Ce qui est magique, c'est ce qui est difficile. C'est ce qui nécessite des incantations pendant longtemps, des chaudrons de sorcières, ce genre de choses. Ça, c'est magique. Donc il faut que ça soit difficile et que, surtout, on puisse voir la photo à l'instant précis où elle est prise. Tandis qu'avec Photoshop, évidemment, on va voir la photo longtemps après. Donc l'idée, c'est dans cette façon de faire apparaître des choses qui n'existent pas. Par exemple, vous avez regardé tout à l'heure une photo d'une modèle qui marchait sur l'eau en talon aiguille. Ben voilà, elle marche sur l'eau en talon aiguille, il n'y a pas de retouche.
Elle n'est pas la première à avoir marché sur l'eau.
Et oui, mais l'autre, il était pieds nus ou en spartiate. Voilà. Mais je l'ai photographié aussi, il est dans mon livre.
On va vérifier.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches, et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver et la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, c'est la photographie.
Non, c'est ceux qui l'aiment. Et c'est ce qui les regarde.
Voilà.
Oui.
Vous me faites encore un contre-pied. Mais est-ce que dans la photographie, on peut dire, peut-être de façon ampoulée, encore que, est-ce que la photographie, c'est la lumière de Dieu?
Pas toujours.
Pas toujours.
Pas toujours. La lumière de Dieu, c'est lorsque on fait de la photographie avec une seule source qui vient du haut. Parce que, je sais pas, lorsqu'on représente, par exemple, Marlène Dietrich, en lumière Paramount, la lumière qui tombe du ciel, c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière du bien. Mais lorsque Fritz Lang, dans Nosferatu, éclaire le vampire par en dessous, c'est la lumière du diable, c'est la lumière de l'enfer. La lumière, c'est celle qui dit quelque chose. La plupart des gens regardent, je sais pas, vont au cinéma, regardent une photo sans penser que la lumière, c'est un langage. Et que ce langage, c'est des sens pour dire quelque chose. Et lorsqu'on éclaire par en haut, ben c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière du bien. Et par en bas, c'est le mal. Et de la même manière, lorsqu'on va mettre une contre-lumière d'une couleur complémentaire, ben on va faire ressortir un autre sens, qui va être celui de la présence au monde, de la présence de la... On va, par exemple, vous envoyez une lumière... Ben, on a tous vu des films où des gens sont assis à côté du feu la nuit. Ils font par exemple un feu de camp. Et si vous regardez l'image, un côté de leur visage est éclairé en bleu, celui de la nuit, et l'autre côté est éclairé en orange, celui du feu. Sauf que dans le réel, il n'y a aucune lumière de feu qui fasse de la lumière orange, et la nuit n'est jamais bleue. En réalité, c'est deux formes de blanc. Sauf que pour donner l'impression qu'on est bien la nuit, et qu'il y a le feu, et bien on met ces deux couleurs. Donc la photographie, elle est là pour rendre réel quelque chose qui n'existe pas, une impression.
Alors, j'ai envie de vous dire, Nat, chez vous, tout est symbole.
Mais oui, on est des êtres humains, on vit là-dedans, on vit dans les symboles. Lorsqu'on emploie des mots, ces mots veulent dire quelque chose. Regardez, quel est le ministère en France qui s'occupe des armées et de la guerre ? Le ministre de la Défense, ça veut dire quelque chose. Si je disais le ministère de la Guerre, vous n'entendriez pas la même chose. Par le fait qu'on va employer des mots à la place d'autres, on va faire penser les gens d'une certaine manière. Dans les années 60, lorsqu'on parlait des banlieues pauvres, on disait les banlieues d'exploités. Il y a des textes, d'ailleurs, il y a un titre de Libération là-dessus, des années 60. Maintenant, donc, si je vous dis exploiter, vous cherchez qui est l'exploiteur. Vous dire, oh, l'exploiteur, je vais lui casser la gueule tout de suite. Maintenant, on dit banlieue défavorisée. En français, il n'y a pas le mot défavoriseur. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas penser ce mot-là. Donc, par conséquent, vous allez dire banlieue défavorisée. Oh, ben, c'est la faute à pas de chance. Et donc, vous allez l'accepter. Donc, chaque mot est symbole. Vous êtes des êtres humains où on pense avec des mots. Et si on change les mots, ben on pense différemment.
Thank you.
Sakura, c'est son occitanitude. Est-ce qu'on pourrait vous taxer d'être un passeur, une passeuse, un passeur du...
Non, passeuse, c'est joli, c'est ça joli, dépend comment on le dit, oui.
Alors passeuse, je vais me reprendre à deux fois. Est-ce que vous êtes une passeuse d'image?
Ben, de toute façon, nous sommes tous des passeurs, tous. Nous transmettons tous quelque chose. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne le font pas exprès. Il faut le faire exprès. En toute chose, il faut toujours faire tout ce que nous faisons exprès. Et oui, je fais exprès de faire passer des messages, passer des images. Ben évidemment, j'essaie d'exister, j'essaie de faire que mon passage sur Terre laisse quelque chose derrière moi. Et donc, faire passer des images, faire passer des façons de voir. Et surtout que d'autres gens, après moi, s'inspirent de moi et que j'ai servi à quelque chose.
On a l'impression que vous amusez.
Oui, mais bien sûr. Mais il faut s'amuser. De toute façon, quelle que soit la profession, la passion qu'on ait, il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de rire. Hein, parce que c'est le rire qui nous fait exister.
C'est la qualité artistique que vous mettez en œuvre qui vous donne cette foi en l'humanité ou c'est comme ça?
Non, mais c'était comme ça avant.
Oui.
Bien sûr, j'ai foi en l'humanité. J'espère que nous allons sortir de nos démons et utiliser ce que nous avons de sublime. L'humanité, c'est Jean-Sébastien Bach. L'humanité, c'est les Bouddhas de Banyan. L'humanité, c'est ce qui permet d'aller sur la Lune. Et voilà, l'humanité, c'est pas la souffrance et les bidonvilles. Et parce que je crois en ça, je crois au sublime, et je crois que nous pouvons tous nous améliorer et être meilleurs.
Ben, je pense que ça pourrait être la conclusion, être meilleur.
Tout faire pour devenir meilleur, oui.
Oui, ça vous va?
Oui. Je vais vous donner une phrase quand même.
Oui.
Une phrase que j'adore.
Oui.
C'est une phrase de Samuel Beckett qui dit ceci. Échoue. Échoue encore. Échoue mieux. Voilà.
C'est clair?
J'adore cette phrase.
Utsita, utsita, attitude, attitude, utsitanitude.
Une émission préparée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.